Alors, nous arrivons à la quatrième séance d'un séminaire prévu en 6, donc il en restera 2 quand nous nous quitterons tout à l'heure, et peut-être vous me direz ce que vous en pensez après cette séance. On n'est pas très nombreux, manifestement, donc peut-être qu'on peut imaginer, si ça vous convient, de commencer par exemple la prochaine séance par des éléments de discussion, des questions qui vous seraient passées par l'esprit et qui n'auraient pas été posées ou que j'aurais pas entendues. Voilà, dites-moi tout à l'heure si vous pensez qu'il faut ménager à l'entrée de la prochaine séance une phase de discussion, ou bien si vous préférez que je chauffe un peu la salle, si le mot convient, et qu'on discute après. Voilà. Donc pour ce soir, je vais faire comme classiquement, c'est-à-dire je vais parler, et puis donc on discutera, j'espère, tout à l'heure. Alors voici ce que j'ai préparé pour ce soir, qui bien sûr est une suite des propos précédents. Oui. 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 Donc le propos de ce soir, évidemment, est une suite ou tient compte des propos précédents, puis j'espère va faire un petit peu avancer encore la réflexion. Je vais partir pour ce soir d'une remarque et d'une discussion que j'ai eue avec l'un d'entre vous entre les deux séances. Et donc voici, que la tendance de la société ce soit d'occuper l'espace et le temps, c'est-à-dire dans un langage plus ordinaire, d'être un lieu de et pour des occupations, que la tendance de la société ce soit d'occuper l'espace et le temps, c'est ce que j'aurais pour ma part paradoxalement déduit dans tout ce séminaire d'une affirmation trouvée au passage d'une lecture d'Anna Arendt dont je parlais l'année dernière, liant l'essor de la vie sociale au temps moderne. Elle le dit dans un passage de la crise de la culture. Et liant donc l'essor de la vie sociale au temps moderne, et dans cette modernisation, liant l'essor de la vie sociale à ce qu'elle appelle l'émancipation du travail. Elle dit que ce qui caractérise les temps modernes, c'est que le travail s'y est trouvé émancipé. Alors je crois qu'il faut entendre ce mot à la fois avec précision, dans le contexte particulier où il apparaît, et l'entendre aussi littéralement comme signifiant une sortie hors de le « et » que vous entendez au début de « émanciper », hein, le « ex » latin. Signifiant, donc ce mot signifie dans le texte, à mon avis, d'Anna Arendt, une sortie du travail, du fait de travailler, hors de l'espace réservé de l'oikos antique, dont j'ai, je crois, un peu parlé l'année dernière. Les temps modernes sont marqués, selon Anna Arendt, par l'émancipation du travail, c'est-à-dire la sortie hors de l'espace réservé de l'oikos antique d'un certain nombre de tâches vitales. Hein, donc, c'est très simple, c'est la phrase banale. Chez les humains, il faut bien travailler pour vivre. Voilà. Nous sommes des êtres qui assurent leur vie par le fait de travailler. Donc, dans le monde antique, l'essentiel du travail s'effectue dans l'espace réservé de l'oikos, et au cours de l'histoire, avec les temps modernes, cette tâche au fond vitale s'est émancipée et sortie de l'espace réservé de l'oikos, qui donc est assignée à la production et à la reproduction de la vie dans le monde antique. Les choses se sont passées ou se seraient passées, si je suis, encore une fois, ce texte d'Anna Arendt, ou cette phrase, cette petite phrase d'Anna Arendt, les choses se sont passées ou se seraient passées comme si ce qui était autrefois périphérique Ce qu'Aristote pouvait inscrire encore au compte du péri-oïkos, alors pour ceux qui s'intéressent à ce que je fais, dans un des derniers numéros de la revue Ligne, j'avais proposé toute une lecture d'Aristote, et notamment du sort fait à ce mot dans les premières pages de la politique, le péri-oïkos. Péri, c'est autour, hein, comme périphérique aujourd'hui, les tâches qui sont autour de l'oïkos, qui sont périphériques, si j'ose dire, dans le monde antique, c'est-à-dire, on voit ça aussi dans les textes de Platon, c'est-à-dire une partie de ceux qui vivent à demeure dans l'oïkos sortent de l'oïkos pour aller accomplir un certain nombre de tâches, prendre langue, comme on dirait aujourd'hui, ou commerce, comme on disait au XVIIIe siècle encore, avec d'autres de leurs semblables, mais ces activités sont, encore une fois, littéralement périphériques. Donc, dans les temps modernes, ce qui était autrefois périphérique serait devenu, émancipé et serait devenu, dans une certaine mesure, je vais y revenir, central. Ce qui était donc de l'ordre du péri-oïkos est devenu, en quelque sorte, avec les temps modernes, principale et centrale. Je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je dis ce genre de choses ou quand je relis ce genre de vieux textes, à cette expression qui évidemment fait florès parmi nous aujourd'hui, de centre commercial. L'idée que le commerce soit devenu quelque chose, pourquoi le mot centre est jugé pertinent. C'est pas du tout quelque chose qui aura occupé toute l'histoire de l'humanité. C'est peut-être un moment d'époque. Ce qui était autrefois périphérique serait, avec les temps modernes, devenu en quelque sorte central et principal, milieu majeur de la vie humaine. Je dis milieu majeur de la vie humaine au sens littéral de ce mot, puisque je pense encore une fois au texte d'Anna Arendt qui situe la société entre l'espace privé et l'espace public. Elle disait, vous vous en souvenez peut-être, intercalé entre. La vie sociale s'est développée avec les temps modernes et la vie sociale, pour Anna Arendt, dans le texte auquel je pense, c'est quelque chose qui s'intercale, je la cite là, entre le privé et le public. Donc c'est un milieu au sens premier du mot. Donc le milieu social serait devenu le centre, avec les temps modernes, de la vie humaine. Il y a une conséquence à ça qui n'est pas immédiatement formulée par Arendt, mais qui, à mon avis, convient à son propos, c'est que avec cette libération, cette émancipation du travail, des tâches vitales qui sont allées s'accomplir en dehors de l'espace réservé de l'oïkos, avec cette émancipation moderne du travail, s'est produit aussi, réciproquement, d'une certaine manière, s'est libéré aussi, à son tour, réciproquement, la famille, au sens moderne, et même, je dirais, bourgeois, ou citadin du mot. Le bourgeois, c'est l'habitant du bourg, le citadin. Voilà. La famille citadine, la famille bourgeoise qui finalement domine au XIXe siècle, c'est quelque chose qui s'est émancipé petit à petit, qui est sorti d'une situation initiale dans laquelle elle n'était pas la famille au sens moderne du mot, mais quelque chose d'un peu plus vaste qui avait notamment pour tâche d'organiser le travail vital, ce grâce à quoi les humains peuvent vivre, consommer des produits qui les font vivre, etc. Donc, avec les temps modernes, la société s'est émancipée, le travail s'est émancipé, est devenu social, mais en même temps, du coup, réciproquement, la famille, au sens moderne du mot, s'est à son tour constituée ou libérée, en se recentrant sur des activités vitales particulières que sont l'amour, la reproduction de la vie, qui évidemment est une conséquence de l'amour, et, puisque les humains mettent au monde des petits prématurés, l'éducation de ces petits, jusqu'à ce qu'ils soient capables de vivre à leur tour de façon autonome. Donc la famille s'est centrée, ou recentrée, enfin s'est centrée sur des activités particulières, les autres tâches vitales étant désormais transférées à ce nouveau milieu, ce milieu qui s'est développé avec le temps moderne et pour lequel le mot société, si je suis Hannah Arendt, convient. De là, me semble-t-il, aussi qu'a pu se faire jour une notion modernisée, en fait je dirais une notion socialisée de l'économie. Cette notion modernisée de l'économie en est venue à concerner de manière essentielle des activités qui prennent une place singulière au regard des conditions de la vie antique, une place qui n'est donc, à suivre Hannah Arendt, ni privée, ni publique, hors, en tout cas, du champ désormais réservé à la vie familiale moderne. Donc on pourrait dire ce mouvement d'émancipation du travail, le passage du travail dans les conditions sociales qui serait caractéristique des temps modernes. Je reformule le propos d'Hannah Arendt, je pense y être fidèle, mais je le reformule. Au fond, a mis en place des notions distinctes, hein, de la vie familiale, la vie économique, la vie politique. La vie économique, au sens moderne du mot, c'est-à-dire chargée et se chargeant de tâches spécifiques, de travail, qui, dans le monde antique, voire le monde archaïque, s'effectuait dans d'autres conditions spatio-temporelles. Bon, j'espère que je suis à peu près clair. Alors je crois que toute cette émancipation, pour reprendre le mot d'Arendt, est paradoxale, je l'ai déjà dit, en ceci que, au fond, elle n'a fait que déplacer une charge. Hein, ce qui est paradoxal, c'est d'appeler ce déplacement d'une charge, la charge de travail, la charge de s'atteler à la production de la vie en travaillant, cette charge-là, Hannah Arendt l'appelle, dans le petit passage auquel je ne cesse de penser, et c'est paradoxal, émancipation. Mais je pense qu'elle l'appelle émancipation pour la raison que j'ai dite tout à l'heure, à savoir qu'elle joue sur le mot, le ex de émanciper. Hein. Elle veut signaler que ce qui était localisé dans une certaine place est sorti de cette place. Mais ça reste une charge. Ça reste une charge, c'est-à-dire que l'émancipation du travail, le passage du travail dans les conditions sociales, met à charge de la société, ou de la vie sociale, quelque chose qui était, dans le monde antique, à charge d'une vie pour laquelle on peut dire le mot, l'adjectif familial, à condition de ne pas l'entendre au sens moderne du mot. Alors, il faut revenir, pour moi, une fois de plus, sur cette charge-là, la charge du travail, la charge d'avoir à travailler, qui caractérise les êtres que nous sommes, les humains que nous sommes. Les humains sont des animaux techniciens. Non seulement ils arrangent leur milieu de vie, mais encore, ils ne sauraient se passer de cet arrangement. Nous ne saurions nous passer d'arranger notre milieu de vie, d'y toucher, d'y faire des arrangements, d'y travailler, etc. Nous sommes des animaux techniciens, c'est-à-dire nous devons arranger notre milieu de vie pour vivre. Voilà. En d'autres termes, si vous voulez, les humains ne peuvent pas ne pas produire leur milieu de vie, produire des arrangements avec leur milieu de vie, ils ne peuvent pas ne pas se charger de cette production d'une manière ou d'une autre, je dirais même d'une manière et d'une autre, puisque, au fond, tout au long de la vie de l'espèce humaine, il y aura eu des variantes dans la façon de s'arranger. avec la vie, avec le monde. Il y aura eu histoire de ça, puisqu'il y a des variantes. Hein. Autrement dit, dans un langage plus banal, nous ne vivons pas, nous les humains d'aujourd'hui, de la même vie et dans les mêmes conditions, de la même vie si on veut, au sens biologique, mais pas dans les mêmes conditions de vie que nos ancêtres, qui eux-mêmes ne vivaient pas dans les mêmes conditions tout à fait que leurs prédécesseurs. Nous ne cessons de toucher à nos conditions de vie, nous les varions, nous en faisons par conséquent histoire, le fait est. Bon. Je pense qu'on peut résumer tout ça dans cette simple formule, les humains sont des animaux techniciens. La question est de savoir, alors ça, j'entre si vous voulez dans la question du jour, de la séance de ce soir, parce qu'au fond, ce que je viens de vous dire, c'était déjà plus ou moins, soit dans le séminaire de l'année dernière, soit dans les séances précédentes. La question que je vais ouvrir, si vous voulez, maintenant, est de savoir si l'historicité dont je viens de parler, le fait que nous ne pouvons pas ne pas toucher à nos conditions de vie, et que nous le faisons avec des variantes dans des conditions d'une histoire. Voilà. La question est de savoir si cette historicité-là, cette variation-là des modes avec lesquels nous assurons notre vie, est hasardeuse, ou bien si elle a un sens évolutif. Une tendance en quelque sorte méta-historique ou évolutionniste, pour lâcher le mot. Suivant un certain nombre de travaux anthropologiques et certaines macro-histoires, si j'ose dire, de la technique, je pense ici tout particulièrement aux travaux de Leroy Gourhan, qui avait une grande influence, qui aura eu une grande influence sur les gens de ma génération, au niveau de la formation. On peut dire que Le geste et la parole, l'un des ouvrages majeurs d'André Leroy Gourhan, c'est quelque chose qui est de l'ordre du macro-historique, de l'anthropologie, de la technique macro-historique, et qui s'efforce de montrer qu'il y a une évolution de la technique, c'est-à-dire un sens évolutif de la technique, je dirais, presque au sens où on peut trouver le mot évolution dans les travaux de quelqu'un comme Darwin. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, Leroy Gourhan, c'est un de ses concepts, le concept de tendance. Voilà. Quand on fait l'histoire de la technique sur une longue période et à grande échelle, on pourrait, ça serait la thèse de Leroy Gourhan, constater que ce qui est vécu comme historique par une génération par rapport à une autre, nous sentons bien que nous ne vivons pas à la génération où nous sommes tout à fait dans les mêmes conditions que nos grands-parents, par exemple. En trois générations, on voit que c'est historique. Et on a l'impression que c'est hasardeux tout ça, que ça avance, on ne sait pas trop comment, ni trop pourquoi. Voilà. Mais peut-être que si on a beaucoup de recul, qu'on peut faire donc de l'anthropologie, de la macro-histoire, etc., alors on s'apercevrait qu'il y a une évolution. Donc, en suivant certains travaux anthropologiques, Leroy Gourhan sûrement, peut-être d'une autre manière ou à un moindre degré, Simondon, on peut penser que, en effet, il n'y a pas seulement une histoire de la technicité humaine, mais une évolution de la technicité humaine. Dans ces conditions-là, dans la condition de réponse à la question que je viens de poser, et que je viens de dire, dans ces conditions-là, il ne saurait y avoir de retour sur le mouvement, le grand mouvement qui a socialisé la vie humaine. Je veux dire ça clairement pour préciser le cadre dans lequel va se situer ce que je vais dire à partir de maintenant. Il ne me semble pas possible, ou alors Leroy Gourhan s'est trompé complètement, ou alors un certain nombre de travaux anthropologiques, il faut les passer par pertes et profits, mais ça me semble quand même une sacrée tâche. Il me semble, en tout cas, qu'au vu de ces travaux-là, on ne peut pas soutenir la thèse selon laquelle il serait possible de faire retour sur la grande histoire qui a socialisé, le grand mouvement historique qui a socialisé la vie humaine et dont j'ai essayé de donner quelques caractères en commençant la séance de ce soir. Alors, reste à savoir, et ça va peut-être être ma question précisément, plus précisément, reste à savoir si l'extension de la vie sociale, l'extension de la socialisation de la vie est vouée à ce que j'appellerais précisément, je vais justifier le mot dans un instant, l'indéfinition. Donc, nous saurions, grâce à un certain nombre de travaux anthropologiques, qu'au fond, il y a une grande tendance, qu'il y aurait une grande tendance évolutionniste. Je suis en train de lire un livre de mon ami Michel Guérin sur le roi Bourhan, et je pense qu'évidemment, cette lecture était très présente dans mon esprit, en tout cas au moment de faire cette séance. Mais je me demande du coup, donc on ne peut pas revenir, admettons, sur des analyses comme celle de Leroy Bourhan, mais est-ce que pour autant, l'extension de la vie sociale, nous pouvons la dire vouée à l'indéfinition ? Indéfini, non défini. Donc défini, finesse en latin, ça veut dire limite. Autrement dit, la question que je veux poser est celle-ci, on ne peut pas revenir faire retour sur le grand mouvement d'extension de la vie sociale. Pour autant, ce mouvement est-il indéfini, c'est-à-dire illimité, sans limite, c'est-à-dire aussi interminable. La socialisation de la vie humaine est-elle indéfinie, illimitée, interminable? Voilà ma question. La vie sociale, même question posée en termes un peu différents, est-elle par conséquent l'horizon et en ce sens la fin de la vie humaine, hein, comme ce vers quoi on ne peut pas ne pas aller, hein. Est-ce que du fait que le mouvement de socialisation est dans une certaine mesure un mouvement irrécusable, est-ce que pour autant il finalise la vie humaine, et par conséquent, en termes peut-être plus simples, la vie sociale est-elle l'horizon indépassable de toute existence humaine? Autrement dit, je vais concrétiser, la société est-elle ce qui doit et va absorber, la société est-elle ce qui est même déjà en train d'absorber l'essentiel de la vie humaine? Autrement dit, en langage peut-être plus simple, l'essentiel dans une vie d'humain, est-ce que c'est d'être socialisé? Du fait que la vie sociale soit irrécusable, pouvons-nous déduire que l'essentiel de la vie humaine, c'est d'être socialisé? Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ou bien, pouvons-nous penser que la vie sociale n'est qu'une composante de la vie humaine, composante irrécusable, mais composante seulement. Voilà. Je pense que vous entendez que, par le simple fait que je pose la question de cette manière, je vais dire ça comme ça, c'est pas très rigoureux ce que je vais dire, mais du simple fait que je pose la question comme je fais, peut-être vous entendez que j'ai envie de répondre, je cherche à répondre, que la vie sociale n'est pas la fin de la vie humaine, mais une composante désormais irrécusable, mais une composante seulement de la vie humaine. Autrement dit, qu'il y a quelque chose d'essentiel à une existence humaine, à quoi, à mon avis, il importe de tenir, puisque c'est essentiel, et qu'il n'est pas d'ordre social. Donc, mon idée, ma proposition, c'est de ne pas laisser de côté des éléments de l'existence humaine qu'on ne saurait, au fond, véritablement qualifier de sociaux. Dans ce cas, à l'hypothèse de la société ou de la vie sociale comme perspective, comme fin et au fond comme perfection de l'existence humaine, perfection ça veut dire aboutissement, il faudrait substituer l'hypothèse du social comme élément de la vie et de l'existence humaine. Et cet élément, si la société est ou n'est que, si vous voulez, élément de l'existence humaine, cet élément, il conviendrait, si c'est un élément, non pas de s'y insérer, absolument, non pas de s'y inclure, absolument, dans le « insérer », hein, vous avez le « in » qui veut dire « dedans », le « inclure hein, »,« dedans », non pas, il conviendrait non pas de s'y immerger, comme on dit beaucoup aujourd'hui, un mot sur lequel j'ai envie de m'interroger un petit peu, non, il conviendrait, si c'est un élément, la société de la vie humaine, élément peut-être indispensable, mais élément seulement parmi d'autres, il conviendrait donc non pas de s'y insérer, non pas de s'y inclure absolument, non pas de s'y immerger, mais de pouvoir y passer. De pouvoir y passer. C'est-à-dire que il faudrait que nous puissions passer dans le social, mais pas que nous nous y immergions, parce que s'y immerger, s'y insérer, s'y inclure absolument, ça reviendrait à faire de la société ou du social la fin, la perfection, l'aboutissement de l'existence humaine. Donc, je suis sur cette hypothèse de réflexion. Il faut que nous puissions passer dans le monde social, dans la dimension sociale de l'existence humaine, mais je dirais, pas y demeurer, hein, la demeure de l'humanité, l'être à demeure de l'humanité, suppose probablement d'autres éléments que l'élément social de l'existence. Raison de plus, donc, pour examiner et faire valoir le passage, le fait de passer, pour ce que ça implique de liberté. J'avais dit ça, je pense, la dernière fois. Hein, il me semble qu'on ne peut pas passer. On ne peut pas penser le passage sans la liberté de passage. Il me semble que ces deux notions sont inévitablement liées. Donc, tout ce que je dis ce soir vise à essayer de soutenir l'idée que nous n'avons pas tort de passer du temps à faire valoir le passage, le fait de passer, pour ce que ça implique de liberté, de désoccupation, ou mieux peut-être encore, de possibilité à ne pas être toujours déjà préoccupé, ainsi qu'on l'est quand on poursuit une fin. Alors peut-être il faut que je me calme un peu, et que je reprenne ce que je viens de dire un peu plus doucement, parce que j'ai pesé les mots dans l'affaire. Peut-être que la société s'est développée pour prendre en charge des occupations. Hein, je l'ai dit en commençant, il y a peut-être un rapport entre l'occupation de l'espace et du temps, hein, la charge de travail, etc., et la vie sociale. Mais peut-être qu'être occupé à produire la vie, même dans les conditions sociales, ça ne finit pas la vie humaine. Ça ne suffit pas à la définir dans l'intégralité de ses composantes et de ses éléments. Autrement dit, pour être humain, sans doute faut-il pouvoir passer du temps à s'occuper des tâches vitales, mais peut-être faut-il pouvoir aussi se désoccuper de ces tâches-là. Ce que le monde antique mettait au registre, disons, du loisir par traduction, mais pas du loisir au sens contemporain du mot, hein, la désoccupation. Hein. Peut-être faut-il pouvoir se désoccuper, et peut-être faut-il, j'essaye de comprendre les choses comme ça, au fond, pour pouvoir passer librement, pour être désoccupé, peut-être faut-il ne pas être toujours déjà préoccupé, ce qui est le cas, être toujours déjà préoccupé, occupé d'avance, ce qui est peut-être le cas de tout être qui, comment dire, s'attache, ce serait le cas de le dire, à poursuivre une fin. Si j'ai une fin en tête, elle me préoccupe, par définition, elle n'est pas là, déjà, puisque c'est une fin. Je n'y suis pas encore, puisque c'est une fin que je me propose. Mais je l'ai déjà en tête, donc elle me préoccupe. Voilà. Si toutes nos activités sont finalisées, et si, en particulier, la vie sociale est pensée par nous comme une fin de l'existence, alors ça veut dire qu'elle nous préoccupe en permanence, elle nous occupe en permanence, et nous ne pouvons pas passer librement dans la vie. Voilà. Et par traduction, par concrétisation, si vous voulez, je dirais tout à l'heure, au fond, si on a de la difficulté à opérer des passages dans le monde social, c'est précisément parce que ce monde occupe trop de place, excède la place qui serait celle d'un élément, et seulement d'un élément, et que, au fond, nous avons l'esprit extrêmement ou excessivement préoccupé des occupations sociales, hein, qui sont pour nous une fin, et qui, par conséquent, ne nous laissent pas le temps de passer, et pour la question ou le thème qui m'intéresse dans tout ce séminaire, ne permettent pas aux humains que nous sommes de produire, de construire un véritable espace social dans lequel il y a justement autre chose que de l'occupation de l'espace, c'est-à-dire de la liberté de passage. Voilà. J'espère que je suis un peu plus clair. Donc, je vous propose de nouveau, on avait déjà commencé un peu il y a 15 jours, d'examiner la qualité ou la vertu possible de ce que je viens d'appeler très globalement, très généralement, passage. Et lié au passage, je crois l'avoir déjà signalé lors de séances précédentes, tout un registre métaphorique, le pas de côté, l'expérience en travelling, le fait de pouvoir longer, etc., plutôt que de voir en perspective, je crois avoir déjà parlé de ça. À ce registre métaphorique, qui convient donc au passage, s'oppose, comme je l'aurais évoqué lors de la dernière séance du séminaire de l'an passé, si cette séance avait eu lieu, mais vous vous souvenez qu'elle avait été, barré quoi par le premier confinement, nous y sommes encore, et donc cette séance n'existe que sous la forme d'un texte que vous pouvez trouver en vous rendant soit sur mon site, soit sur le site de BAM, mais en tout cas j'aurais évoqué l'an passé comme s'opposant au registre métaphorique du passage celui de l'immersion et à un moindre degré le registre métaphorique de l'insertion. Donc, pour un développement de ce que je suis en train de dire, je vous propose, si ça vous dit vraiment, de voir les quelques pages, elles ne sont pas très longues, qui sont sur le site au titre de la séance 6 de l'année dernière, où je m'étais un peu, un peu développé la critique de tout ce qu'il y a de métaphore dans ces mots, que nous prononçons aujourd'hui beaucoup sans peut-être les entendre assez, hein, immersion, intégration, insertion, etc. Je ne sais pas si les raisons qui conduisent ce dernier registre de métaphores, insertion, immersion, etc., à être si coriaces et si tenaces, je ne sais pas si ces raisons, je les ai suffisamment indiquées dans le propos que j'ai commencé à tenir ce soir, mais je peux dire au moins que la prégnance de ce registre métaphorique, l'immersion, etc., signale au moins donc qu'il s'agit pour les humains de faire quelque chose qui ne leur est pas naturel, hein, quand on dit ça, quand on parle de l'immersion aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qu'on dit ? On dit d'une manière ou d'une autre, sans vraiment prendre garde ou conscience à ce qu'on dit, mais quand même on dit on parle de quelque chose qui envoie, si j'ose dire, nous autres, qui nous envoie nous autres, dans un milieu qui ne nous est pas naturel, à savoir celui de se jeter à l'eau, hein, parce que pour être immergé, il faut de l'eau au fond, il faut se jeter à l'eau, et de là nager, voire surnager, dans un milieu où nous sommes au fond aussi bien susceptibles de nous noyer. Donc en fait, je cherche à penser la société autrement que comme un endroit dans lequel il faudrait s'insérer, s'immerger, parce qu'au fond, finalement, ces métaphores-là le disent, si c'est un lieu dans lequel il faudrait s'immerger, alors c'est aussi un lieu dans lequel nous ne respirons pas bien, nous autres les humains, hein, il faut apprendre à nager, et c'est difficile, ça ne nous va pas, et nous sommes susceptibles de nous noyer. Alors l'an dernier, je ne développe pas, mais j'aurais développé l'an dernier, si la séance avait eu lieu, j'aurais opposé ce vocabulaire de l'immersion d'un côté et de la plateforme de l'autre. Hein. Les plateformes, c'est pour ceux qui vivent, justement, les plateformes, ça flotte sur la mer, et il y a donc des gens qui sont sur les plateformes et qui respirent, et puis il y a ceux qui rament, qui nagent, etc., vous voyez, qui sont dans l'eau. Je cherche à déplacer ce régime, tout ce régime métaphorique avec lequel volontiers nous parlons de nos activités sociales, et évidemment je propose de substituer à ce régime métaphorique un autre. Voilà. Et je vais chercher cet autre dans l'analyse du passage, du fait de passer, de pouvoir passer. Je ne vais pas en dire davantage ce soir, si vous voulez, sauf si vous souhaitez qu'on y revienne en discussion. Je préfère pour ce soir, dans l'esprit du pas de côté, rapporter une fois de plus, pour ce qui me concerne, l'attention, votre attention, du côté de Walter Benjamin et de sa fameuse notion de distraction. Elles sont liées, les deux notions, dans les textes de Benjamin, passage et distraction. Je vais tourner autour de ça, si vous voulez, maintenant. Je préfère donc faire ça, porter votre attention du côté de Benjamin et de sa notion de distraction, car il s'agit d'abord, avec cette notion de distraction, dans les textes de Benjamin, d'un savoir marcher. Je pense que quand on lit attentivement Benjamin, c'est ça qu'on finit par voir, que il en vient à parler de la distraction en liant sa compréhension du terme à une façon de se déplacer dans la ville. Ce que je résume ce soir en disant, la notion de distraction chez Benjamin s'associe à une certaine façon de marcher, à un certain savoir marcher et à un certain savoir se déplacer, qui n'ont à leur tour rien de naturel pour les humains, pas plus au fond que le fait d'avoir éventuellement à nager dans un monde, et qui, façon de savoir marcher, savoir se déplacer, qui n'a donc rien de naturel, qui est historique, et qui n'est même pas, non seulement pas naturel, mais même pas archaïque. Hein. Les humains ont dû apprendre, pense, je crois, en substance Benjamin, à se déplacer dans le monde moderne, dans le monde de la ville moderne, avec distraction, hein, qui va être l'attitude caractéristique du passant, hein, qui se déplace distraitement dans la ville. Voilà. Nous avons dû apprendre la distraction, et nous l'avons apprise, si je suis Benjamin, à l'époque des grandes villes, donc à l'époque du déploiement de la vie sociale, et je le signale au passage, nous avons appris à nous déplacer distraitement dans la ville, nous avons appris la distraction, et en même temps, puisque c'est lié chez Benjamin le passage, aidé en cela par le cinéma. Hein, il y a toute une série de textes de Benjamin qui expliquent que le cinéma aura contribué à nous apprendre la distraction. Une façon de voir. Une façon de voir tout en se déplaçant, et pas de voir avec le point de vue unique qui est celui du regard perspectiviste classique. Et cet apprentissage, à mon sens, a rapport avec la désoccupation dont je viens d'essayer de vous dire l'enjeu, des occupations qui est aussi, à bien y réfléchir, une façon de sortir du monopole de la faim sociale, ou qui est l'élément d'une polarisation de l'existence sans laquelle il ne saurait y avoir espace. Ou encore, pour le dire autrement, la désoccupation est une façon de sortir du monopole de la faim sociale, ou elle est l'élément d'une polarisation de l'existence sans laquelle, et c'est toute ma thèse dans ce séminaire, il ne saurait y avoir espace. Ou encore, la désoccupation, le passage, la distraction, etc., est l'élément d'une spatialisation sans laquelle il ne saurait y avoir véritablement existence. C'est-à-dire, j'entends par existence, une vie non pas finalisée, mais polarisée. Peut-être il faudrait que je reprenne ces trois phrases que je viens d'essayer de vous dire, qui sont là encore très, certainement trop compactes, trop condensées. Si vous pouviez les lire, peut-être, si vous les aviez sous les yeux, vous verrez que j'essaye de dire en même temps qu'il y a un lien dans mon esprit entre le fait de faire de l'espace et d'exister, au sens de ne pas être polarisé sur une seule fin. Voilà. Il y a un lien entre le fait d'exister, d'être spatialisé et d'avoir une vie non pas finalisée mais polarisée. Alors ça, je me demande si ce n'est pas le point essentiel pour moi de tout ce séminaire, d'essayer de penser l'existence humaine sans la notion de fin. Et par conséquent, il faudra bien en parler à un moment ou l'autre, sans la notion de moyen. Voilà. Arrêtez de penser avec le fait que tout ce qui nous importe doit être, devrait être finalisé, justifié par une fin. Et j'essaie de substituer à cette idée finalement linéaire, la fin c'est quelque chose qui est devant nous, là-bas, pour plus tard, vers quoi on va, perspective de l'existence. J'essaie de substituer à ça, je ne sais pas comment dire ça, une pensée de la vie. C'est prétentieux de dire ça, mais c'est peut-être de ça qu'il s'agit quand même. Une pensée de la vie humaine comme étant humaine par le fait qu'elle n'est pas finalisée mais polarisée. Polarisée, vous ne pouvez pas penser cette notion au singulier. Polarisée, il y a au moins deux pôles pour qu'il y ait une polarisation. C'était déjà la thèse de l'an passé, ce pourquoi je m'étais intéressé à cette polarité vie privée, vie publique. Voilà. Et peut-être que les humains se sont compliqués, au sens précis du mot, la vie, en introduisant dans leurs conditions d'existence un troisième pôle, qui est la société. Mais toute ma thèse est, il faudrait, à mon sens, j'essaye de penser ce troisième pôle comme n'étant qu'un pôle avec les deux autres, et non pas une fin. Voilà. Donc c'est ça que j'ai essayé de dire il y a quelques secondes, de façon probablement un peu trop concentrée. Et que dans la constitution de l'élément social comme pôle et pôle seulement de la vie humaine, la distraction que nous avons apprise à pratiquer avec le déploiement de la vie sociale, cette distraction nous aide en fait à tenir au fond l'élément social comme un pôle et un pôle seulement de l'existence humaine. Donc elle est positive, pour reprendre le mot banal des séances précédentes. Et la distraction elle-même, qui est liée à l'expérience du passage, est une expérience positive. Alors concernant, d'une manière plus générale, ce que je soumets à l'instant à votre réflexion, à savoir, au fond, l'adoption par l'humanité de comportements non archaïques, nous avons appris à passer et à percevoir distraitement. Et nous avons appris aussi la vie sociale, etc. Donc, concernant plus généralement cette idée que nous avons adopté des comportements non archaïques, et en d'autres termes que nous avons modernisé notre vie, nous les humains, je vais une deuxième fois ce soir vous renvoyer à un propos de Leroy Gourhan. Ce propos concerne la disposition humaine au guet, à l'expérience du guet, du guetter, du fait de guetter. Alors, c'est une partie particulière de mon exposé de ce soir. Hein. Je n'oublie pas tout ce que je viens de dire. Je passe à un point, si vous voulez, ultérieur. Je vais me concentrer sur un passage de Leroy Gourhan qui méditait à la fin du geste et la parole, du tome 1, je crois, du geste et la parole, sur la disparition de la disposition archaïque des humains à guetter. Voilà. J'avais souligné ce passage, je m'excuserai de faire référence à mon propre travail, et je l'avais critiqué dans un livre qui a pour titre le différent esthétique. C'est à la fin du différent esthétique que je m'étais mis, disons, à critiquer non pas Leroy Gourhan dans l'ensemble, mais ce passage-là de Leroy Gourhan. Ce passage de Leroy Gourhan évoquait à sa façon une sorte de dénaturation de l'espèce humaine, espèce conduite à perdre son aptitude morphologique à la vigilance, ou peut-être, pour mieux rendre la thèse de Leroy Gourhan, il évoquait, le passage que je critiquais, une façon pour l'espèce de déplacer son aptitude, disons, naturelle à la vigilance au niveau d'organismes sur-individuels, de sur-organismes, disait Leroy Gourhan. Ça va se clarifier, ce que je suis en train de vous dire. Je vais donner, vous allez comprendre, je pense, j'espère, dans peu de temps, par les exemples que je vais donner. Donc Leroy Gourhan médite à un moment donné sur ce fait que les humains qui faisaient le guet dans les conditions archaïques de leur existence, alors pour être peut-être plus clair, faire le guet, ça veut dire articuler d'une certaine manière le voir et l'entendre. Hein, c'est-à-dire le voir, on regarde si quelque chose arrive par devant, et grâce à nos oreilles, on est informé si quelque chose arrive par derrière. Donc les humains, depuis la nuit des temps, sont vigilants, hein, ils font le guet, ils veillent, et ça veut dire, dans leur corps, par leur corps, morphologiquement, une certaine articulation du voir et de l'entendre a lieu qui leur permet précisément d'être vigilants. Et cette capacité morphologique au guet, nous serions, dit Leroy Gourhan dans le passage que j'ai en tête, en train de la perdre parce qu'elle serait, dans le déploiement de la vie moderne, déléguée à des organismes sur-individuels. En clair, donc, le voir et l'écouter qui se complétaient depuis la nuit des temps chez chacun d'entre nous, qui réside archaïquement ou qui résidait archaïquement dans les corps individuels, se sont ou se seraient peu à peu dotés de compléments. Des constructions, par exemple, comme des tours de garde dans des édifices. Parce que Leroy Gourhan fait, au fond, une espèce d'histoire des objets techniques qui ont fait que peu à peu, le guetteur, qui n'avait que son corps pour être vigilant dans le monde, à déléguer à des objets, ou s'est aidé d'objets, puis à déléguer à des objets, puis finalement c'est devenu un surorganisme. Voilà l'histoire que raconte à sa façon Leroy Gourhan et que j'essaye de retracer de façon un petit peu condensée. Donc, ce qui était archaïquement, ce qui se tenait archaïquement dans des corps individuels, c'est peu à peu doté de compléments, donc des constructions comme des tours de garde dans des édifices, puis des édifices panoptiques, comme a pu le dire de son côté Michel Foucault, Et puis, c'est non seulement l'aptitude naturelle, morphologique à la vigilance complétée d'édifices, mais c'est bientôt passé non plus à des compléments, mais à des suppléments. Par exemple, des lunettes de diverses sortes, des relevés cartographiques aussi bien, hein, qui aident à la vigilance, au repérage de l'espace, et qui donc, ces compléments puis suppléments, seraient finalement devenus des propriétés d'organes techniques supplémentaires que nous nommons plus couramment audiovisuels. En clair, le roi Gouran méditait déjà dans les années 60, on va dire, sur, il méditait pas déjà avec ce vocabulaire-là, mais au fond, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, si je dois l'illustrer aujourd'hui, c'est ça que je vais dire. C'est les caméras de surveillance, par exemple. Mais pas seulement. Hein. C'est une façon qu'aurait l'homme contemporain de s'en remettre à des procédures extérieures à ses propres organes corporels pour assurer la vigilance. Voilà. Une façon de veiller sur le monde, une façon de veiller au monde et sur le monde chez l'homme contemporain, modernisé, serait passée, par exemple, le film, le cinéma, le documentaire, etc., c'est une façon de veiller sur le monde. Disait le roi Gouran, des aptitudes morphologiques sont transférées à des surorganismes. Voilà. Donc, il me semble qu'on pourrait comprendre dans cette logique de pensée-là, à présent, les caméras de surveillance, qui assument une tâche excédant les capacités perceptives des humains, par exemple, les caméras infrarouges, hein, qui permettent de voir la nuit. Ce genre de dispositif ou de disposition signalerait que le monde d'aujourd'hui non seulement ne tient plus au corps comme avant, mais même ne tient plus au corps d'avant. Là pourrait se placer, toute proportion gardée, et en première analyse du moins, la distraction propre au passant benjaminien. C'est-à-dire, alors bien sûr, c'est pas bien ce que je fais parce que je ne fais pas une lecture chronologique. Benjamin ayant écrit avant le roi Gouran, je devrais parler dans ce sens-là. D'abord de Benjamin, de la distraction chez Benjamin, ensuite de le roi Gouran. Je le fais dans l'autre sens parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose chez Benjamin qui permet de lire de façon critique le propos de le roi Gouran qui est très pessimiste. Voilà. Qui se demande si ça n'est pas la fin de la vie humaine, le fait que la vigilance soit passée à des organismes supplémentaires et sur-individuels. Voilà. En fait, peut-être que si on prend la façon de penser de Benjamin, on peut trouver justement dans ces organismes sur-individuels, en particulier la façon qu'a le cinéma de documenter le monde et de veiller sur lui, quelque chose qui nous a appris une qualité tout à fait essentielle dans la vie sociale, celle justement de pouvoir percevoir distraitement. Évidemment, qui perçoit distraitement ne perçoit pas comme un guetteur. Hein, voilà. Et bien, il faut penser le fait de pouvoir ne plus être simplement dans la situation du guetteur comme une émancipation, une libération, un bienfait dans une certaine mesure. Donc, je parlais de ça déjà d'une certaine manière l'année dernière. Il s'agit chez le passant ni de pérégrination, ni de promenade, ni même de flânerie. Il s'agit d'une compétence dont l'humanité des grandes villes et des modes de transport motorisés a dû se doter. Benjamin nous aura appris à penser la distraction non pas comme une faiblesse, mais comme une compétence. Alors que chez le roi Gouran, et c'est ça qui me gênait, il en vient à nous faire penser l'absence de vigilance, qui serait pour lui la distraction, comme une incompétence de l'humanité. Donc, ce qui m'intéresse chez Benjamin, qui n'est pas dépassé, à mon avis, par des travaux ultérieurs, c'est justement ça, nous permettent de penser la distraction comme une compétence que le développement de la vie moderne a exigé dans une certaine mesure et permis en même temps que nous soyons dotés, que nous nous en dotions. Dans la situation qui lui est faite, l'humanité moderne, modernisée, ne regarde pas comme en perspective, elle ne voit ni en profondeur, ni sous l'hypothèse d'un seul point de fuite capable de focaliser l'ensemble de sa vue. Non, l'humain modernisé, il lui faut, et pour la moindre expérience de traversée qu'il peut se proposer, il lui faut, pour sa sécurité, savoir voir de ci, de là, à droite, à gauche, devant aussi bien que derrière. Et c'est ce que traduit à sa façon, c'est ce qu'expose à sa façon, c'est ce que fait voir à sa façon ce film dont j'ai déjà plusieurs fois parlé, Les Hommes le dimanche, sur lequel je ne cesse d'appuyer ma réflexion. Il faut à l'homme, à l'humain modernisé, vivant dans les conditions techniques et sociales de la vie moderne, il lui faut savoir s'épargner de considérer attentivement tout ce qui peut entrer dans son champ visuel. Autrement dit, il faut de la distraction à la vie moderne. Des signaux, bien souvent, suffisent à l'homme moderne, à l'humanité modernisée, des signaux suffisent que la ville moderne, en effet, multiplie. Il y va donc bien et littéralement d'une vue distraite, tiraillée de deux sens, hein, distraction. Il y va donc bien et littéralement d'une vue distraite, d'une vue disparate, d'une vue non concentrée et en même temps, mais en même temps, non occupée. Voilà. Si nous avions la perception occupée, concentrée, focalisée comme autrefois, nous ne pourrions pas traverser les situations sociales modernes, la vie moderne. Il nous faut bien avoir la vue et la perception d'une manière générale distraite, non vigilante, etc., etc. Le distrait, passant par excellence chez Benjamin, ne se laisse pas envahir par les sollicitations qui le voisinent sans cesse. Peut-être que pour justement que la vie sociale ne soit pas un endroit d'immersion, de focalisation, de finalisation, etc., il faut bien que nous valorisions l'expérience de la distraction, de la non-concentration, etc., c'est-à-dire au fond le fait de ne pas se laisser envahir par les sollicitations qui nous voisinent sans cesse. En fait, le passant et le distrait, c'est le même chez Benjamin, résistent avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins de conséquences à l'envahissement de la vie sociale, c'est-à-dire à la tendance dont je parlais en commençant de la société à occuper l'esprit. La même sorte d'analyse, je crois, pourrait s'appliquer à la perception sonore. Ce que j'ai dit à propos de la perception visuelle, je crois que ça pourrait s'appliquer à la perception sonore. Le développement de la vie sociale urbaine a conduit l'humanité à distinguer et même à devoir distinguer les sons des bruits. Une partie même, je dirais, de la surdité contemporaine consiste à ne plus pouvoir dissocier les bruits des sons. Voilà. C'est-à-dire à ne pas pouvoir se distraire, disons, de tout un fond sonore qui en fait fait bruit. C'est-à-dire d'être occupé unilatéralement par quelque chose qui fait du bruit et dans lequel, au fond, faute de pouvoir s'en distraire, on finit par ne plus rien entendre. Le sourd n'entend que des bruits. Il ne parvient pas à se distraire des bruits quand, par exemple, il voudrait suivre une conversation dans un restaurant bondé. Donc j'ai plusieurs situations à l'esprit dans lesquelles il me semble qu'on peut produire une analyse, je dirais, positive, même si ce mot m'a été, comment dire, enfin, a produit des questions la dernière fois, une analyse positive de la distraction, c'est-à-dire de la possibilité de se mettre de côté. Avoir l'esprit de côté, ça pourrait être une définition du distrait. Le distrait, c'est celui qui se met l'esprit de côté. Ben, voilà, se mettre l'audition de côté d'un certain nombre de bruits, pouvoir se mettre la vue à côté d'un certain nombre de sollicitations, voilà une expérience qui mérite d'être considérée comme une compétence et pas simplement comme une insuffisance. Ce qui apparaît en fin de compte, me semble-t-il, et qui motivait déjà, il y a quelques années, ma réserve quant à la notion de sur-organisme telle que présentée chez le roi Gourand, ce qui apparaît en fin de compte, c'est que l'expérience de la distraction n'est pas, je me répète, en soi négative. Il faudrait distinguer quand elle l'est et pourquoi, et quand elle ne l'est pas, c'est-à-dire il faudrait la discerner ou la critiquer elle-même, dans la mesure où critiquer veut dire précisément discerner ceci de cela. Discerner, critiquer la distraction, examiner quand elle est une valeur et quand au contraire elle ne l'est pas, c'est ce que précisément aura fait Benjamin lorsqu'il supposait que l'expérience sensible dans la ville capitale du XIXe siècle, pour reprendre son expression, c'est-à-dire Paris, la grande ville par excellence du XIXe, ou la grande ville par excellence. C'est ce qu'il faisait donc Benjamin lorsqu'il supposait que l'expérience sensible dans la ville capitale du XIXe siècle pouvait se lier, je le cite, pouvait se lier, pas était nécessairement lié, mais pouvait se lier à une haute conscience poétique, elle-même liée à une esthétique du déboîtement, du déhanchement, bref, du rythme. Je fais allusion à un passage particulier de Benjamin qui se trouve à la fin de Notes sur quelques thèmes baudelairiens, où apparaît cette expression de haute conscience poétique. Donc Baudelaire, c'est le passant, c'est celui qui a cessé de flâner, ça n'est plus un promeneur, il a cessé de se promener dans la vie, c'est un passant, et ce passant mérite qu'on se souvienne de lui pour évidemment le fait qu'il a su faire poème dans ces conditions de vie-là, c'est-à-dire faire monter au niveau d'une haute conscience poétique l'expérience distraite de la vie citadine, de la vie urbaine, de la vie sociale. Et donc je retiens pour l'une ou l'autre des séances qui va venir ce que dans le texte de Benjamin, on trouve associé à cette idée d'une haute conscience poétique dans les conditions de la vie sociale moderne. Et donc, j'ai trouvé ces mots-là en lisant le texte, les déboîtements rythmiques, les déhanchements, le rythme. Donc je reviendrai, je compte revenir un moment ou l'autre, pas ce soir, mais un moment ou l'autre sur cette esthétique-là. Donc je disais que je commençais à mettre en place les traits d'une esthétique, on pourrait dire, baudelairienne, du passage. Bon. La haute conscience poétique, pour reprendre la formule de Benjamin. Je reviendrai sur cette esthétique, mais d'abord, ce soir, je voudrais souligner que Benjamin ne pouvait donner consistance à cette haute conscience, à sa notion de haute conscience poétique dans les conditions de la vie sociale moderne, j'insiste bien, il ne pouvait donc donner consistance à sa notion de haute conscience poétique sans impliquer, ipso facto, l'existence d'une conscience d'un autre niveau, pas haute par conséquent, qu'il a dit lui-même amortie. Et que je dirais peut-être, pour m'expliquer ce qualificatif chez Benjamin, amorphe. Donc, au fond, ce que dit Benjamin, c'est qu'il y a peut-être plusieurs degrés de distraction, si on entre dans l'analyse plus précise du concept de distraction, dont j'espère avoir montré dans un premier temps qu'il n'est pas tout négatif, Mais il faut entrer peut-être plus dans le détail et s'apercevoir. Oui. Bon. Donc je ne sais plus, quand s'est perdu. Donc j'ai essayé de dire que la haute conscience poétique dont Baudelaire serait le cas exemplaire, Benjamin ne peut la penser qu'en lui opposant une conscience d'une autre nature, enfin pas d'une autre nature, d'un autre niveau, qu'il dit amorti, et que je propose, pour m'expliquer cet adjectif, d'interpréter comme signifiant amorphe. Voilà. Amorphe ou anesthésié. Pas dans le vif. Et même, je vais terminer mon exposé de ce soir en jouant sur cette expression, pas dans le vif et même pas dans le coup. Voilà. Peut-être y a-t-il à distinguer, à discerner deux façons de traverser au fond ou d'être dans le milieu social, amortir ses sollicitations, donc développer, peut-être aider en cela d'amortisseur, d'objet amortisseur, bon, il faut qu'on reparle de ça. Donc d'amortir l'expérience même de la vie sociale, de son caractère éventuellement excitant, enfin, je ne sais pas comment dire ça. Et puis une autre façon de traverser, qui serait donc l'expérience positive du passage, qui consiste à lier ça, comment, c'est ce qu'il faut qu'on cherche, à une haute conscience poétique, c'est-à-dire à faire de ça l'occasion d'un poème, d'une fabrique spécifique pour laquelle le mot poiein, le poème, pourrait convenir. Donc je cherche ça, les conditions d'un faire poème qui se lie à l'expérience du passage avec une haute conscience poétique. Qu'est-ce qui peut produire cette haute conscience? On ne peut penser ça, en tout cas c'est ce qu'a fait Benjamin, qu'en opposant, qu'en essayant de comprendre ce qui opposerait cette haute conscience à son inverse, la conscience amortie ou la conscience amorphe ou la conscience anesthésiée, celle qui n'est pas vive, ça c'est, maintenant c'est moi qui parle, celle qui n'est pas même dans le coup, celle qui n'est pas dans le coup. Je propose cette façon de dire, être dans le coup ou pas dans le coup, je propose cette façon de dire en raison de la compréhension que j'ai, que je me suis faite, de la notion qui voisine toutes celles-là dans les textes de Benjamin, de choc. L'expérience moderne est une expérience pour laquelle le choc est devenu la règle, dit en substance Benjamin. Le choc, le coup. Voilà. Je sais combien cette notion de choc chez Benjamin a été élaborée avec et depuis Freud, et je prends par conséquent à l'instant le risque d'une entente à plusieurs niveaux, à la façon des psychanalystes, de cette expression « être dans le coup ».« Être dans le coup ». Ça peut vouloir dire avoir subi un coup, on est dedans, on est sous le coup du coup, dans le coup. Et puis ça peut vouloir dire aussi, comme vous savez, être dans le coup, ça veut dire ne pas dater, être dans l'actualité, être à jour. C'est bizarre comme expression, si on se met à y réfléchir. Bon. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir à cette expression. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, être dans le coup? Donc, pour ne pas m'arrêter trop aux divers niveaux d'entente de cette expression, être dans le coup, je dirais seulement que Baudelaire apparaît finalement à Benjamin comme cet homme qui a su faire quelque chose de haut, de la poésie et des poèmes, avec les coups de la vie moderne et les chocs de la vie moderne. Il me semble que dans la même zone de texte que Benjamin met tout ça en place. Le choc, une certaine façon de comprendre ce que veut dire ce mot dans les conditions de la vie moderne, Baudelaire, le passage, l'éloge du passage, l'éloge de la distraction et la montée en situation exemplaire de cet homme Baudelaire, qui a su faire quelque chose de haut, de la poésie et des poèmes, pas n'importe lesquels, j'en reparlerai, avec les coups de la vie moderne et les chocs de sa propre vie dans la vie moderne, à lui Baudelaire. Ou encore, pour Benjamin, Baudelaire est celui qui ne s'en est pas tenu à faire ce qu'on fait d'ordinaire des coups et des chocs de la vie, à savoir des symptômes. Baudelaire est celui qui n'a pas fait symptômes, mais poèmes, œuvres, si vous voulez, quelque chose. Il a fait quelque chose qui reste, qui s'est matérialisé. Voilà. Donc littéralement, il a bien fait quelque chose, des coups et chocs de la vie moderne, dont il a su se distraire hautement, il en a fait quelque chose, au lieu d'en faire ce que nous en faisons, nous autres, j'imagine la plupart du temps, en tout cas, à savoir des symptômes. Voilà. Alors, je crois que cette notion de symptômes, c'est un peu compliqué, je pense, mais bon, réfléchissons-y quand même un petit peu. Cette notion de symptômes, je la trouve essentielle, et j'avais commencé à la mettre en place l'an dernier, tout à la fin, ou je l'aurais mise en place l'an dernier, tout à la fin du séminaire de l'an dernier, si la séance avait eu lieu, mais encore une fois, vous pouvez vous reporter, si vous le souhaitez, au texte. La notion même de distraction est, dans la lettre comme dans la signification de son nom, une notion symptomatique. Elle l'est en ce sens qu'elle est porteuse d'une double signification. Un symptôme, j'ai appris ça de Freud, et je rappelle que Benjamin lit Freud, il le cite dans tous les textes que je suis en train de commenter. Un symptôme psychique, c'est un symptôme dans la mesure où c'est le lieu d'un double sens. C'est un compromis, c'est le lieu où des désirs incompatibles font compromis l'un avec l'autre, fabriquent un symptôme qui tente de satisfaire et l'un et l'autre. Voilà. Donc une notion symptomatique, un symptôme, c'est toujours quelque chose comme du double sens. Alors peut-être la distraction est une notion symptomatique dans l'absolu, dont on peut, qu'on peut pousser du côté d'une haute conscience ou du côté d'une conscience amortie. Donc, la notion de distraction est peut-être symptomatique en soi, en ce sens qu'elle est porteuse d'une double signification, puisque tel est le symptôme, depuis Freud, une manière pour l'esprit de satisfaire à une double exigence qui le tiraille, ce par quoi cet esprit se protège d'un déchirement qui le guette et qui, autrement, n'eût été précisément la formation symptomatique, pourrait en effet l'atteindre. La plupart d'entre nous formons, si j'ose dire, des symptômes. En tout cas, je pense que c'est la vision de l'humanité qui peut résulter de la lecture de Freud et par conséquent de la lecture de Benjamin mise en Freud. Nous essayons, au fond, au prix de formation de symptômes, de ne pas être déchirés par la vie moderne, de ne pas laisser nos esprits être déchirés par les exigences contradictoires de la vie moderne, les sollicitations contradictoires de la vie moderne, et nous nous en sortons en fabriquant des symptômes. Voilà. Et évidemment, peut-être vous comprenez, si j'espère que je suis à peu près clair, que je suis en train de vous proposer, qu'on pourrait peut-être se demander si on peut se sortir justement des caractères éventuellement tiraillants, voire contradictoires de la vie sociale, en formant non pas des symptômes, mais des œuvres, c'est-à-dire des objets non symptomatiques. Et il faudrait définir qu'est-ce que c'est que ça, ces objets non symptomatiques, et si je suis à peu près clair dans tout ce que j'essaye de dire, qui ne peuvent eux-mêmes ressortir que d'une haute expérience de la distraction. Voilà. Donc, tout ce discours que je vous tiens est sûrement complexe, Et plus je le dis à l'instant, plus intérieurement je me dis c'est trop complexe. Enfin bref, tout ce discours est sûrement complexe, trop complexe, mais pour ma défense, je dirais que le propos de Benjamin, aussi magnifiquement écrit soit-il, n'est sûrement pas moins complexe que celui que je tiens ou essaye de tenir ce soir. Je vais tenter, pour terminer, de simplifier en disant que tout ce propos de Benjamin nous propose, au fond, de distinguer entre deux états de distraction, l'un est poétique, l'autre symptomatique, et en tant que tel, en tant que symptomatique, il est propre à une conscience qui se défend, qui se protège, et qui, au fond, pour se défendre et se protéger, en se défendant et en se protégeant, se restreint. Voilà. Il me semble qu'on peut essayer de réfléchir à ça. La haute conscience poétique, c'est une conscience qui s'élargit. L'autre conscience, la symptomatique, est une conscience qui est propre à un esprit ou à une conscience qui se défend, qui se protège et qui, au fond, se restreint. La première expérience de la distraction, la première entente de la notion, a quelque chose d'exceptionnel. Peu font des poèmes. Rares sont les constructions poétiques dans la société telle qu'elle s'est développée. Société qui est prenante, finalisée par des tâches économiques, etc. etc. Bon. La fabrication de poèmes a quelque chose d'exceptionnel. La fabrication de symptômes est une qualité répandue de l'époque. Dire que cette qualité est symptomatique, c'est dire, selon l'analyse que je proposais, que j'essayais de proposer à la toute fin de la réflexion de l'an passé, dire que c'est symptomatique, c'est dire que ça trahit et non pas traduit un sentiment. Alors ça, je suis très embêté parce que peut-être il aurait fallu que je reprenne tout le propos de l'an dernier, mais je n'ai pas eu envie, moi, pour moi, de le faire, mais peut-être que j'aurais dû le faire pour vous, quand même. Mais je vous y renvoie. Voilà. Où j'avais essayé de trahir, traduire, vous savez, c'est un vieux jeu de mots, et puis le verbe latin peut se traduire par les deux mots, traduire, c'est trahir, etc. Bon. Peut-être que ce qui nous manque et qui nous met dans un état symptomatique, c'est de ne pas savoir traduire les sentiments ou le sentiment qui peut être le nôtre lorsque nous traversons un milieu social. Voilà. Traduire et non pas trahir le sentiment que fait venir un monde où le social s'étend. Peut-être que c'est ça la tâche. Comment traduire le sentiment qui va avec un monde où le social s'est étendu et même s'étend encore. Plus exactement, l'esprit hautement poétique parvient à déposer des poèmes, tout à la fois objets, artefacts et œuvres, à la hauteur de l'expérience qu'il fait. C'est-à-dire, il parvient à déposer des poèmes qui ont pour qualité d'être eux-mêmes distraits, tiraillés, étendus. C'est ce que disait Benjamin des poèmes de Baudelaire, et je détaillerai ça la prochaine fois. J'essaierai de montrer que la poésie de Baudelaire, elle est à la hauteur de l'expérience d'époque qui exige la distraction, car on ne peut pas traverser un espace social moderne sans être distrait, voir par coup d'œil, etc., etc., enfin, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Donc, le poète Baudelaire est celui qui est parvenu à déposer des poèmes à la hauteur de l'expérience qu'il fait ou que nous faisons dans la vie sociale modernisée, c'est-à-dire il a déposé des poèmes qui ont pour qualité d'être eux-mêmes distraits, tiraillés et tendus. Donc, je pense qu'il va falloir que nous examinions, mais pas ce soir, ce que peuvent bien être ces poèmes. Voilà. Ils relèvent à coup sûr d'un mode du faire œuvre dont je vais vous proposer de généraliser l'appellation que je viens d'en donner. Autrement dit, mon propos à venir sera le suivant. Il s'agira à terme donc de déposer, de comprendre ce que peut vouloir dire dans les conditions où la société est devenue ou tend à être un pôle, ou est un pôle possible de l'existence humaine, comment déposer quelque chose qui, non pas trahisse symptomatiquement, mais traduise poétiquement le sentiment qui va avec l'expérience sociale. Je pense que si l'expérience sociale nous pèse, c'est parce que nous ne savons pas, ou mal ou peu, en traduire les sentiments, en particulier ce sentiment qu'elle appelle, cet état d'esprit qu'elle appelle, et pour lequel le mot distraction semble être le mot bienvenu. Voilà. Donc ce que je suggère, et je m'arrête là pour ce soir, ce que je suggère, c'est que nous réfléchissions bientôt à la façon de poser les choses que nous faisons. La façon de les poser, et disons de les poser de telle sorte que l'expérience de traverser du milieu social, soit une expérience associée à celle, disons, du rythme, des déboîtements, des déhanchements caractéristiques donc de la poésie de Baudelaire, mais qu'il faudrait, comment dire, expérience qu'il faudrait en quelque sorte déplacer sur des objets qui ne sont pas des poèmes au sens littéraire du terme, mais qui seraient des poèmes au sens de construction, par exemple. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, autrement dit, faire une ville rythmée, déhanchée, se déboîtant, etc., traduisant ce qui attend d'être traduit, finalement, pour que nous ne soyons pas condamnés à faire symptôme de cette expression être dans le coup de la vie contemporaine. Voilà. Je pense que j'en ai assez dit, sûrement très complexe, et je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez. Ici, une remarque, une question non enregistrée. En tout cas, vous me rassurez un peu, parce que du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir été que obscur ce soir. Il y a quand même quelque chose qui a été entendu, quoi. Parce qu'effectivement, c'est ça. Alors évidemment, c'est peut-être très prétentieux de ma part, mais c'est quand même ce genre de choses qui m'occupe, quoi, qui m'intéresse. Après tout. Faut-il nécessairement penser l'attention comme une qualité, comme la qualité par excellence? Donc moi je n'en connais qu'un qui a fait le travail autrement, au fond, qui a pris la question par un tout autre bout, c'est Benjamin. Et en tout cas, la lecture que je suis parvenu à faire de la distraction chez Benjamin, alors je suis très embêté sur cette question parce que j'ai fait un texte quoi. J'y ai travaillé. Et ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'il doit être publié et qu'il n'est pas publié. Je vais finir par le mettre moi-même sur mon site parce que je me suis expliqué là sur la compréhension possible du concept. C'est un concept chez Benjamin de distraction. Ce n'est pas le divertissement, etc. Il dit quelque chose de très précis, il distingue deux niveaux de distraction. Enfin, j'en ai un petit peu parlé, mais de façon trop rapide ce soir. Mais c'est bien l'enjeu. C'est tout à fait l'enjeu. C'est-à-dire, voilà, on a une pensée qui se déboîte, qui se déhanche par rapport à ce que, en effet, vous repérez comme, au fond, une façon dominante d'aborder ces questions. Oui, oui. Oui. Mais c'était déjà chez le roi Gourand, ce passage que j'incrimine là de façon allusive ce soir, mais je crois que c'était déjà chez le roi Gourand cette idée de faire valeur, on pourrait dire le contraire de la distraction, c'est la concentration. Il y a plein de choses, on peut retrouver en effet les textes de Foucault dans Surveiller, Punir, etc. Je veux dire, toute cette façon de comprendre, de la comprendre, de la critiquer, mais aussi de la comprendre, hein, comme étant les techniques de production de la concentration. Voilà. Écoutez cette expression, et en fait elle est gravissime. Voilà. Pourquoi le mot concentration serait un bon mot ? Eh bien oui, j'essaye de penser à côté de ça. Et je ne vois comme solution que cet éloge benjaminien de la distraction et cette proposition dans laquelle je m'engage de faire œuvre de la distraction. Et la distraction, évidemment, ça va aussi, j'espère que ça s'est entendu dans mon propos, la notion de polarité, de polarisation, la tripolarité, disons, privée, publique, sociale, c'est en tant que c'est des pôles de la distraction essentiellement. Hein. C'est-à-dire, ce qui nous polarise, c'est ce qui nous tiraille. Hein. On est entre des attractions différentes. Voilà. Donc une vie polarisée, si la vie humaine il lui importe d'être polarisé et pas finalisé, comme j'ai essayé de dire ce soir. Il lui importe aussi d'être, inévitablement, il lui importe aussi d'être distraite et non pas concentrée. Mais la prochaine fois, j'essaierai de vous montrer, que, la prochaine fois ou la fois d'après, ça dépend si vous voulez qu'on discute, mais comment un poème de Baudelaire est le lieu d'une distraction. Voilà. C'est-à-dire que j'espère montrer que la distraction, ce n'est pas la tête en l'air. Quoi. Voilà. J'ai pas fini quoi, le travail. Ici, une remarque, une question non enregistrée. Oui. Bah c'est quand même une des enfin c'est le mot perspective je l'ai critiqué mais disons c'est une des oui, je sais plus quoi dire du coup mais bon tant pis prenons le mot dans son sens ordinaire c'est en tout cas c'est ce que j'essaierai de faire voilà c'est ce que j'essaierai de faire c'est-à-dire en fait finalement Benjamin nous a laissé avec un cas exemplaire de quelqu'un qui a su faire de son être dans le coup de la vie moderne un poème, de la poésie, de la haute conscience poétique, etc. Et donc c'est un exemple littéraire. Hein, ce sont les poèmes de Baudelaire. Donc à nous de chercher, et ça je pense que c'est vraiment un travail de recherche, des cas qui ne seraient pas littéraires, c'est-à-dire où la matière pour faire cas, ce ne sont pas des lettres, mais des briques, par exemple, j'en sais rien, du béton ou une autre matière que la matière littéraire. Donc c'est bien ça que je cherche. Qu'est-ce que c'est qu'une construction ?
remarque, une question non enregistrée.
Alors, je ne sais pas si je comprends la dernière formulation de la question qui me surprend. Je ne sais pas si ça va répondre à ce que vous dites, mais ce que j'ai noté en vous écoutant, c'est qu'au fond, est-ce que je soutiendrai l'idée que pour qu'il y ait passage, il faut qu'il y ait passage de quelque chose à quelque chose. C'est-à-dire, parce que le passer de là à là, après coup, oui, je peux dire ça. Après coup, je peux dire, je suis passé de là à là. Mais dans le moment où c'est un passage, avec l'expérience du passant au sens de Benjamin, est-ce qu'il y a une orientation du passage? Autrement dit, est-ce qu'un passage s'est orienté vers... Eh bien, spontanément, il va falloir que je réfléchisse à partir de là, mais spontanément, j'ai envie de répondre non. Le passage, c'est pas finalisé. Quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de but. Il y a un côté, alors, ce qu'il faut dire, errance. Donc j'ai du mal à dire que, au fond, un passage, ça ne s'organise pas. Voilà. Peut-être ça va clarifier. Peut-être justement, le problème, je ne sais pas, de la mairie de Paris, par exemple, ça serait qu'elle voudrait organiser des passages. C'est-à-dire, voilà, on va faire programme de ça. On va confier ça à des experts qui ont des méthodes, etc., qui savent faire, et on va organiser des passages. Eh bien, moi, je suis presque sûr qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de passage. Il y aura des circuits organisés, il y aura des déambulations programmées, etc. Et toute la difficulté, elle est que il y a des circonstances dans lesquelles du passage est possible, mais on ne peut pas l'affirmer d'avance. Voilà. Ce n'est pas dans l'ordre du pré-occupé, du pré-installé, ou quelque chose de ce type-là. Sur le plan logique, il y a une autre façon de dire ça, c'est que il ne faut pas confondre entre des causes et des conditions. Les conditions de possibilité de quelque chose, ça dit que quelque chose est possible, mais pas que la chose va sûrement avoir lieu. Voilà. La cause ne peut pas ne pas donner lieu à l'effet. Voilà. Et bien peut-être qu'il n'y a pas de cause au passage, mais des conditions de possibilité au passage. Et peut-être qu'il y a des... peut-être qu'on pourrait prendre la question, enfin si c'est votre question, par l'autre côté, et dire il y a peut-être des choses dont on est sûr qu'elles interdiront le passage. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler des obstacles. J'avais donné l'exemple des barrages, des barrières, des péages. Peut-être les objets impératifs, dont je parlais rapidement tout à l'heure, sont des objets qui interdisent la distraction, l'expérience du passage, etc. Donc ça, voilà. Peut-être ça, on peut répondre. De ce côté-là, oui, on peut donner des réponses.
Ici, une remarque, une question non enregistrée.
Alors, j'y avais pas pensé aussi nettement, mais alors la réponse est oui et non. Enfin, elle n'est pas seulement oui, disons. La réponse, ce que je peux répondre à ça, c'est que, alors, c'est d'accord pour dire finalement le fait qu'on ait, je sais pas comment tu as dit, mais c'était bien dit. La relation que nous avons, disons, à l'audiovisuel contemporain, hein, c'est-à-dire on est assailli d'images, on passe de là à là, d'un extrait à un autre, selon ton vocabulaire, ça a une correspondance dans l'espace à trois dimensions dont parlait Benjamin, hein, qui est la perception par coup d'œil, où il suffit de voir un petit peu, de ci, de là, à droite, à gauche, devant, derrière, rapidement, et on s'arrête pas longuement sur les choses, et que c'est une qualité que de parvenir à percevoir de cette manière-là. C'est une compétence acquise par l'humanité, etc. Donc, d'accord, il y a le correspondant de l'expérience citadine dont parlait Benjamin dans l'expérience de l'audiovisuel à laquelle tu viens de faire référence. Mais le mot extrême m'intéresse beaucoup, j'y avais pas pensé, mais ce mot m'intéresse beaucoup, je l'ai noté pour une prochaine fois. Mais je dirais que ce que nous sommes en train de chercher, c'est pas seulement une pratique de l'extrait, parce que la pratique de l'extrait, en effet, c'est ce que fait le passant lambda, le téléspectateur lambda d'aujourd'hui, etc., ou le, je sais pas quoi, celui qui saute, et c'est même ce que nous sommes encouragés à faire, puisque par exemple sur Netflix, si vous voulez avoir le générique d'un film, à la fin, bon courage, ça saute tout de suite au film d'après, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on nous fait passer de l'un à l'autre, mais ça c'est un passage, ça serait le passage symptomatique. On fait ça peut-être dans une logique de défense à l'égard de quelque chose qui, au fond, agresse la perception d'une certaine manière. La question, c'est de ne pas revenir, au fond, en arrière, de ne pas être dans la réaction à l'encontre de tout ça. Et la question, ça va être, ça y est, je viens à ce que je voulais dire en t'écoutant. Ce que je cherche, ce que je vous propose de chercher, c'est un art de l'extrait. De faire art de l'extrait. Pas subir de fait. Voilà. Et je pense que c'est ça quand Benjamin s'intéresse au cinéma, au fond, je pense que moi, c'est à lui que je dois la distinction que j'ai proposée entre faire des films et faire du cinéma. Voilà. Quand le cinéma a lieu, il a lieu, comment dire, il fait art d'opérations qui autrement peuvent être des opérations finalement devenues banales, qui font qu'on voit, qu'on a besoin de voir, qu'on ne peut pas ne pas voir des images à toute vitesse, partiellement, par extrait, etc. Donc je pense que c'est ça l'enjeu, faire art de l'extrait. Je citerai un exemple la prochaine fois d'architecture de l'extrait ou d'organisation urbaine qui, à mon avis, je n'avais pas pensé au mot extrait, mais si tu permets, je le mettrai peut-être la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord, il s'agissait bien de ça, et relativement, enfin je dis relativement, effectivement, consciemment, c'était bien le projet que j'avais, enfin si le mot, c'est bien l'idée que j'avais proposée à l'éditeur, justement, d'avoir une expérience distraite de la lecture, de permettre de proposer les conditions d'une expérience distraite de la lecture, distraite ne voulant pas dire... Au fond, ça ne veut pas dire inattentive au sens où on oppose ces choses.
Ici, une remarque, une question non enregistrée.
Oui, je vois, oui. Ouais. Je ne suis pas assez zimélien pour savoir ce qu'il répondrait à ça. Oui, exactement. C'est ce qu'il faudrait regarder. Ouais. Ouais. Et par ailleurs, moi j'ai lu plutôt ce texte-là où je l'ai impliqué dans le séminaire l'année dernière, plutôt en disant ce que je trouve là, c'est la proposition d'un élément structurant. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelque chose qui démarque un côté de l'autre. Et en fait, c'est plutôt dans ce sens-là que j'irais, mais c'est peut-être pas une interprétation suffisante du texte. Les objets dont nous commençons à parler, là, et que nous cherchons à caractériser, je dirais que ce sont, enfin, dans la mesure où ils s'associent à la constitution d'une expérience de l'espace, ils sont démarqués. Il faut qu'il y ait une démarcation. Il faut que quelque chose, qu'il y ait une ligne de démarcation. Et c'est plus ça que j'avais retenu, moi, mais c'est sûrement pas une lecture suffisante du texte. Enfin, c'est ça que j'avais retenu, ou que je voulais retenir dans le texte de Simon. Le fait que ça permet de distinguer un côté et l'autre. Donc l'intérieur et l'extérieur, c'est la porte. Ici et là, c'est le chemin. Ce qui constitue le fleuve en tant que tel, finalement, c'est le pont qui dit il y a une rive et une autre rive. Donc je pense que peut-être au fond, pour qu'un passage soit possible, l'analyse que j'ai proposée est encore incomplète, il faut qu'il y ait un élément de démarcation. C'est-à-dire peut-être, alors là vous me faites aller plus loin que je ne pensais, mais disons, je réfléchis à haute voix, peut-être que l'uniformité de ce qu'on pourrait appeler donc des étendues et non pas des espaces, ce qui fait qu'une étendue est une étendue, c'est l'uniformité qui y règne, plutôt que la différence. Justement, une étendue, il n'y a pas de démarcation. Et bien dans ce cas-là, il faudrait soutenir l'idée, je vais y penser, qu'il n'y a pas de passage dans une étendue. Voilà. Il n'y a pas de... Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse la prochaine fois? On commence par des questions. On n'est pas beaucoup, donc on peut imaginer de faire. Ou bien vous voulez que je réembraye comme d'habitude. Je réembraye comme d'habitude. J'ai vu un hochement de tête, mais bon, je n'en ai vu qu'un. Hein.